Il est entre 18h15 et 18h30 sur Jet FM. Il est à peu près l'heure d'écouter Retransmission.
Retransmission. L'émission qui permet de découvrir des projets sonores de créatrices et créateurs indépendants. Bonjour et bienvenue dans Retransmission. Aujourd'hui, nous partons sur L'île inventée, nom du livre écrit par Christiane Vadnet. Réalisé par Rhizome, Arkham-sur-Loire et en collaboration avec La Quadrature, la série de podcasts Cosmogonie de l'île inventée nous emmène découvrir l'île imaginaire aux mille facettes de l'autrice. Nous allons tout de suite écouter le premier épisode, L'institutrice, dans lequel Christiane Vadnet, ses invités et Monsieur Mouche nous font rencontrer Carmen Black, la fondatrice de la première école de l'île inventée. Bonne écoute!
Bonjour et bienvenue à Rencontre d'auteurs. Alors, nous entamons un cycle spécial de 8 épisodes consacrés à l'écrivaine Christiane Vadnet et à son dernier livre, L'île inventée.
Je vous parle d'une île qui est à la fois cité et forêt tropicale. Pleine de l'obscurité humide des plantes et lumineuse d'une énergie nouvelle, portée par les algues. Je vous parle d'une île où l'on vit dans les arbres, avec tout le confort nécessaire, sans prendre plus de la nature qu'il n'en faut, en se déplaçant en ballon, où goûter à la racine des arbres vous révèle leurs secrets, et où les acacias vous envoient des signaux parfumés chaque fois qu'un danger se présente. L'essence de cette vie est le mouvement.
L'extrait sonore qu'on vient d'entendre et qui parle d'une île fantasmagorique a une facture quand même assez particulière. C'est pas votre voix qu'on entend, Madame Vadnet.
Appelle-moi Christiane.
Oui, d'accord, Christiane. Et donc, vous avez décidé d'enregistrer un balado à partir de certains textes de votre roman. Est-ce que vous avez engagé une comédienne?
Non, pas du tout. En fait, c'est important de préciser que je ne suis pas l'auteur de ce texte-là. J'ai simplement colligé divers documents qui m'ont été fournis par deux archéologues nantais, Flavie Reuse et Louis-Émile Grenier, que d'ailleurs, j'ai pris la liberté d'inviter sur ce plateau. Il devrait arriver là, d'une seconde à l'autre.
Ah oui, oui. Vous avez pris la liberté de...
Excusez-moi pour le retard. Voilà, on s'installe. Bonjour, Christiane.
Allô.
Ça va?
Bonjour, Christiane. Bonjour.
Simon, oui, enchanté. Bonjour.
Enchanté.
Bonjour, enchanté. Quelle intéressante surprise.
Merci
beaucoup.
Très bien. Bon, je suis contente. En fait, j'ai eu peur qu'on me laisse seule. Mais bon, justement.
On en avait parlé.
Vous arrivez à point, car je dirais que c'est vous deux, Flavie et Louis-Émile, c'est vous qui m'avez obtenu en fait les documents qui portent sur l'île incroyable dont on parle aujourd'hui et qui, rappelons-le, a bel et bien existé.
Tout à fait.
Mm-hmm. Oui.
Donc j'insiste sur le fait, donc pour revenir à mes propos, que la véritable auteure du texte, ce n'est pas moi, mais c'est Anne Silou, qui est native d'une communauté insulaire qui a été fondée par deux intellectuels méconnus, Charlotte Sémaphore et Alcide Lachance, autour des années 1860. La voix de l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est celle de Charlotte Sémaphore elle-même qui l'a enregistrée peu de temps après avoir quitté l'île.
Ah oui, donc c'est le personnage lui-même qui s'est enregistré. Alors, je dois dire, Christiane, que j'apprécie beaucoup que nous fassiez tout de suite plonger dans cet univers que vous résumez très bien. Donc, c'est effectivement cette fiction dont il est question dans le livre. Et une fiction qui est, ma foi, fort originale. Donc, mais j'aimerais me concentrer dans un premier temps, avant de parler spécifiquement de l'histoire, sur des processus de création littéraire.
Alors, Simon, si je peux me permettre, je tiens à confirmer ce que vous a dit Christiane, là, est tout à fait véridique. C'est important, il faut bien comprendre ça.
Mais bon, qu'est-ce que la vérité, au fond? Et donc, mais merci, M. Grenier.
Non, mais c'est important, c'est vraiment véridique.
OK. Admettons que ce soit véridique, je serais quand même curieux de savoir.
Si je peux me permettre.
Oui, allez-y, Madame Russe.
Merci. Imaginez une île éloignée de toute route commerciale, au large de laquelle personne ne passe jamais. D'accord. Bon, avec un préambule comme celui-là, on a envie d'ajouter qu'elle est entourée d'un épais brouillard, mais il n'en est rien.
Non, il n'en est rien.
Non. Elle baigne dans le soleil. Et si elle s'est drapée d'un manteau de mystère? Cela est le fait de ceux qui l'ont colonisé avec au premier chef Alcide Lachance, botaniste génial,
complètement fou. Faut pas oublier que les expérimentations d'Alcide ont parfois causé pas mal de dégâts. Elles ont même forcé les colons à évacuer l'île durant des années.
Oui, Émile, merci. Alcide a rendu la forêt toxique, mais qui fait des omelettes sans casser des œufs ?
Personne.
Merci. On prend nécessairement des risques. Surtout quand on poursuit le rêve de créer une nouvelle branche de la génétique végétale permettant aux plantes de se défendre contre les êtres humains. Ou quand Alcide se sentait charitable de vivre en symbiose avec eux.
Oui.
Ça m'énerve quand tu me coupes. C'était ça l'objectif d'Alcide. La raison pour laquelle, avec Charlotte Sémaphore, il a fondé l'île. Bien sûr, il n'était pas les seuls scientifiques extravagants de cette communauté, puisque Charlotte parcourait les 7 océans afin de recruter les esprits les plus flamboyants.
Et les plus séditieux.
Dans le but de créer une société d'un type nouveau. Arrête de me couper.
Allez-y, terminez justement. Terminez.
Merci. Dans le but de créer une société d'un type nouveau, une sorte de nouvel équilibre dynamique et hasardeux à l'image de l'évolution. Voilà, j'ai terminé, vous pouvez
continuer. C'est bon, t'as fini ?
Oui, mais Christiane, vous avez engagé des acteurs pour... qu'est-ce qui se passe là?
Des acteurs.
Bon, ben oui, écoutez, c'est original, c'est original. Prenons-nous au jeu, faisons ça. Je vais jeter les feuilles, parce que je m'étais préparé, mais prenons-nous au jeu, plongeons et acceptons un instant que cette île ait bel et bien existé. Votre ici, Christiane, nous parle de la quête d'Ansidou, de son enquête, même, devrais-je dire, visant à résoudre une mort suspecte qui serait peut-être le premier et unique meurtre de l'île. Donc, c'est un peu un polar. Donc, cette île que votre personnage principal, Ansidou, va finir par quitter. Ça a vraiment la teneur d'une intrigue de roman. Et donc, je me permets cette première question, qui n'est pas celle que j'avais préparée. Si vous n'avez que retranscrit des documents archéologiques, comme vous le dites, comment en êtes-vous venu obtenir des informations aussi détaillées sur l'état d'esprit des personnages, etc.?
Je vous assure que ce que j'ai fait, en fait, c'est décrypter et retranscrire un document sonore qui a été découvert par hasard dans un jardin de Nantes, sous des églantines, là, pour être très précise.
Un jardin de Nantes?
Oui. Celui d'Ansilo elle-même. On en déduit qu'elle s'y est installée après avoir quitté l'île. La bulle sonore a été retrouvée par un de ses petits-enfants après sa mort.
Une bulle sonore?
Oui,
je l'explique dans le livre.
Évidemment, je l'ai lu.
Bon, alors je vais expliquer. En fait, une bulle sonore. En fait, il s'agit d'un phénomène naturel, encore méconnu aujourd'hui, hein, c'est normal, qui est devenu sur l'île une technique extrêmement développée d'enregistrement et surtout de conservation sonore. Très important ce point-là, très important. Donc en fait, cette bulle, elle est faite à partir de matières complètement organiques, hein, évidemment, et qui peuvent se conserver durant des générations dans le sol ou à l'intérieur de plantes. Et l'histoire d'Annecy n'est pas la seule bulle sonore qui nous éclaire sur le passé de cette île.
Non.
C'est moi. Hein. Nous devons d'ailleurs beaucoup, si vous voulez, à Suzy Fleming, qui est l'unique personne à notre connaissance à avoir réellement pu documenter cette civilisation au moment même de son apogée. Et on a de nombreux documents. La plupart qui sont sonores.
Oui, pas si nombreux.
Bah si.
Non, pas si nombreux. Bah, plusieurs étaient endommagés pour en tirer quoi que ce soit, c'était pas possible.
Bah, oui.
Mais quand même, hein, un nombre assez significatif de bulles, de plusieurs auteurs différents d'ailleurs.
Bon, alors il y avait plusieurs genres en fait. Il y avait beaucoup de documentaires, des rituels, des contes.
Qui ont été retrouvés,
des chansons.
Et toutes se recoupent.
Des poésies.
Et recoupent le récit d'Annecy, ce qui tend à corroborer les faits.
Je voudrais revenir un peu en arrière. Je veux dire, Simon, je comprends que c'est un peu fou tout ça. Je me souviens de la première bulle que j'ai entendue. J'ai vraiment de la difficulté à y croire.
Ah bah oui. Moi, je me rappelle, je revois encore ta tête la première fois que t'es arrivé dans le bureau d'archéologie sonore. Hein. Ça, je m'en souviendrai toujours. Hein.
Ben, pour vous situer, là, c'était il y a un peu plus d'un an, pour situer nos auditeurs. L'histoire de ça, c'est que Louis-Émile et Flavie, que je connaissais pas encore, m'ont invité à prendre en charge l'édition du récit, L'île inventée, dont on parle aujourd'hui. Je les connaissais pas, mais c'était deux archéologues français en collaboration avec des organismes bien connus. Donc, j'ai été intriguée. J'ai fait de moi un peu une Charlotte Sémaphore et je suis partie à l'assaut des mystères de mon époque. J'ai saisi ma valise, je me suis rendue dans les bureaux nantais du cabinet Sémaphore pour prendre connaissance des documents qu'on souhaitait me confier. J'avoue que j'ai été surprise au début par la modestie des installations. On était dans un demi-sous-sol, plein de vieux équipements audio, d'objets hétéroclites, plein de terre. Je m'attendais pas à trouver ce genre de bureau au bout d'un voyage transatlantique. On m'avait annoncé que j'allais chez les spécialistes mondiaux de l'archéologie sonore. Mais, mon incrédulité a été suspendue quand Louis Émile m'a fait entendre pour la première fois les enregistrements d'Annecy. C'est une des scènes les plus étranges, les plus magiques auxquelles il m'a été donné d'assister. Pour te faire une image, là, Simon, sur une table, il y avait un ancien phonographe où, juste à côté, il reposait une plante en pot là, qui était étrangement vigoureuse là, pour les demi-sous-sols du cabinet Sémaphore. On aurait dit une espèce de plante carnivore, tu sais, celle qui ont des pièges, qui ressemblent à des paupières, qui s'ouvrent sur un œil vorace. Et Louis-Émile, que j'appelais encore Monsieur Grenier à l'époque, a saisi la tige qui était connectée à l'appareil acoustique, il l'a plantée dans la terre, et ensuite il a tourné la molette du phonographe, un peu comme s'il cherchait une chaîne radio, mais c'était une bulle sonore, évidemment, qu'il cherchait. Écoute, je sais pas si c'est l'authenticité de ce bureau-là, l'impression furtive que la plante a comme frissonné, tout ça m'a paru bizarrement crédible. La voix d'Annecy Lou, c'est une voix qui a patienté pendant des années dans la boue, mais elle était grave, elle était calme, elle semblait tellement contemporaine, tellement vraie. Quand Flavie et Louis-Émile, qui étaient pleins d'espoir, m'ont demandé si j'y croyais, encore aujourd'hui, je sais pas trop là, s'ils parlaient de la beauté de ce qu'on écoutait ou de l'ensemble de leur histoire, je sais pas exactement ce que j'ai répondu, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai été convaincue puis j'ai embarqué dans le projet.
Ouais, non, mais moi, je te rassure aussi, Christiane, pour nous, la première fois, ça a été quand même une surprise, un choc véritable. Un choc. Découvrir ces bulles, c'est unique au monde, si vous voulez. Personne n'a jamais vraiment
vu ça. Oui, mais la perspective de la révolution scientifique que représente l'existence de ces nouveaux types de sources historiques a vite converti notre embêtement en enthousiasme. Une des entrées de l'encyclopédie de l'île inventée, écrite par Suzy Fleming, porte justement sur la technologie des bulles sonores.
Ben, en fait, j'ai justement avec moi l'encyclopédie, je l'ai apportée.
Ah, super.
Je vais vous lire un extrait qui porte, cet extrait qui porte sur les bulles sonores.
Parfait.
Allez-y, faites comme chez vous.
Bulles sonores dans Encyclopédie de l'île inventée, tome 1. Dans la préface de sa célèbre Introduction à l'archéologie sonore, Charlotte Sémaphore a appelé avec verve la fin de l'hégémonie du visible. Le plus flamboyant inconnu de ce monde, soutenait-elle, se niche dans le lointain, dans les vibrations frétillantes de l'atmosphère et dans la vase, où le son fossilisé continue d'onduler sur lui-même, telle une germination préparant son déploiement prochain. Ce plaidoyer dit « pour l'oreille et pour le chant des sirènes » a influencé les rituels de l'île aussi fortement, sinon plus, que le botanisme d'Alcide Lachance. Prenons les cérémonies funéraires. Lorsqu'un insulaire décède, son corps est bien sûr replié dans la forme d'un bulbe, genou contre menton, et mis en terre à une distance précise de la surface, dans un endroit ensoleillé ou ombrageux selon son tempérament. Mais comme les pharaons de l'ancienne Égypte, l'insulaire ne part jamais seul. Une fois le corps recouvert par l'humus, on y plonge de fins cornets acoustiques, également appelés corolles, afin d'inoculer au sol d'innombrables bulles sonores contenant les ondoiements vocaux du défunt ou de ses êtres aimés. De cette façon, quelques mois plus tard, lorsqu'un végétal pousse de lui-même sur le tombeau, longue gerbe fluorescente, fougère d'un noir charbonneux, buisson rampant, sa floraison émet des murmures où s'entremêlent fragments des discours enfouis, déflagration du cadavre, bruissement organique souterrain, concert sur lequel un village entier vient se recueillir. À ce moment, on considère l'enterrement achevé et la famille entame son deuil.
Alors là, oui, moi je dis oui, ce passage, si vous voulez, par l'exemple qu'il donne de l'utilisation de ces technologies botaniques...
Botaniques et ontologiques, dirions-nous plutôt.
Oui, oui.
Et par ontologique, on entend qui a rapport à l'être, n'est-ce pas?
Absolument, absolument, Flavie. Alors, si vous voulez, par l'exemple qu'il donne, donc, cet extrait de l'encyclopédie porte tout autant sur les bulles sonores que sur les rites de l'île. Mais évidemment, une telle technologie a nécessairement eu des incidences sur l'ensemble des us et coutumes de cette société.
Tout à fait.
D'autant plus de par son insularité. Parce que si vous voulez pas, par exemple...
Attends, oui. Oui. Est-ce que vous avez des exemples, disons?
Mais bien sûr.
Oui, bien sûr, bien sûr. Flavie, est-ce que tu veux préparer avec la régie la bulle de l'inauguration de l'école Carmen Black?
Oui, tout
Comment
à fait.
Préparer avec la régie.
J'y vais.
Désolée, je sais que c'était pas au programme, mais en fait, Flavie et Louis-Émile ont retrouvé un enregistrement du mari de Carmen Black. Madame Black, ça a été une des personnalités majeures de la révolution éducative de l'île inventée. Son mari lui a rendu hommage quelques temps après sa mort, durant une fête, pour renommer l'école du nom de Carmen. Le son n'est pas toujours parfait, mais il s'agit d'une des bulles documentaires les mieux conservées.
Oui, mais on peut pas comme ça, Martin. Ah, toi, t'es d'accord avec ça, là? Bon, OK.
S'il vous plaît, approchez tous, s'il vous plaît.
Je crois que c'est son mari.
Ah oui, je savais même pas qu'elle était mariée.
C'est formidable de vous voir si nombreux. Je vous rassure, je ne vais pas faire un long discours.
Je vais laisser la parole à celui qui a partagé sa vie avec elle. Il va nous raconter ce qu'a apporté Carmen Black à notre île, à tous les enfants qui sont ici, et sûrement à beaucoup d'entre vous. Marcellus, c'est à vous.
Merci. La première fois que je l'ai rencontrée, Carmen Black n'était pas encore devenue notre première institutrice. Elle était une jeune adulte déjà très affirmée et appréciée. Elle avait tout juste 10 ans à la fin du grand déracinement quand elle fut la première à créer ce rapport si particulier avec les Aurantium aquaticum. Les grandes Amougies étaient les premières à réagir en couleur au récit, bien vite rejointes par d'autres pour illustrer et les raconter. C'est grâce à cette découverte qu'elle fut considérée par Alchie la chance avec tant d'attention. Certes, on avait déjà bien remarqué que les enfants avaient un rapport particulier avec certaines d'entre elles. À l'instar des animaux, les plantes avaient l'air de donner plus facilement leur confiance aux enfants qu'aux adultes. Et donc, de leur dévoiler plus vite leurs capacités, ou plutôt leurs spécificités. Mais avec la brise noire et la vie sur le refuge des palétuviers, tout allait changer. Le contact avec les plantes terrestres était moins fréquent. Mais tout le monde était convaincu du retour imminent de tous sur l'île inventée.
Une énergie phénoménale.
Avant ça, les enfants étaient libres d'apprendre ou non les connaissances des adultes. Et elles écoutaient les histoires des grands et chaque parent décidait librement de ce qu'elle voulait leur enseigner. Les enfants menaient leurs propres expériences avec les plantes.
Qui n'a jamais été un événement en jouant avec les cornichons d'âne?
Et Balium et Laterium, que les petits appellent les plantes pétées.
Aujourd'hui encore, c'est une énergie phénoménale qui est produite par les rires de ceux qui jouent à leur faire des bruits incongrus.
Et si certains les trouvent puériles, j'avoue que je ris encore souvent quand j'entends les faux pets que les enfants provoquent.
De ma mère la première fois que je suis rentrée de l'école avec des plantes têteuses.
Tu lui avais montré?
Je sais plus, mais en tout cas, elle les a vues. Elle a pas trop aimé.
Mon père, lui, il disait toujours qu'il aurait adoré aller dans des écoles comme ça.
Mais t'es pas un peu amoureux de Carmen Black, par hasard?
Peut-être un peu.
Comme tout le monde, en fait.
La question de la création d'une école ne s'était pas vraiment posée avant le grand déracinement. Mais il devenait évident, désormais, que pour pouvoir revenir sereinement sur l'île, les enfants allaient devoir être avertis du danger de la forêt toxique et vivre avec. Alors, pour pouvoir dispenser quelques savoirs, et surtout leur laisser la possibilité de se retrouver aussi souvent qu'elles le voulaient, sans adultes, ces derniers leur avaient construit une grande barge à bord droit, rien que pour eux. Carmen, qui était une des premières natives de l'île, était la plus jeune à rejoindre cette sorte d'école sur l'eau. De cette première expérience collective et de sa découverte à 10 ans, elle a toujours conservé cette conviction que l'intelligence des enfants face à la nature et leur rapport à elle était particulier.
Elle n'a eu qu'une idée en tête, tout court.
Favoriser leur épanouissement. Favoriser notre épanouissement. Créer un lieu qui serait aux enfants, où elles n'auraient pour rôle que de pouvoir répondre à leurs sollicitations et veiller à ce que tous les enfants et adolescents
y vivent convenablement le temps qu'elles veulent y passer. Un endroit où elles seraient libres de venir, comme de ne pas venir. Un lieu qui nous a tous aidés à devenir les adultes que nous devions être. C'est quand elle a su vraiment à quoi son école devait ressembler que nous avons vraiment fait connaissance. En 1892, elle avait 25 ans et moi, tout juste 17. Mais comme j'avais développé cette technique de construction nouvelle avec les entailles gigas, ces grands liens tissés, on m'a chargé de diriger la construction de l'école. C'était un honneur pour moi. J'étais très jeune et je travaillais avec les meilleurs techniciens jardiniers et botanistes, dont Cépalin Loup, que je tiens à remercier maintenant d'être là aujourd'hui avec nous. Et puis surtout, avec elle, Carmen. C'était très impressionnant. Et passionnant aussi. Une année merveilleuse à ses côtés, remplie de défis, d'enthousiasme, d'émerveillement, jusqu'au jour de l'ouverture de l'école où tout aboutissait enfin pour elle et pour nous. Nous avions agencé sur deux cercles concentriques de jeunes arbres droits. Ils servaient de tuteurs pour que les entalagigas s'élèvent. Et l'ensemble constituait une sorte de panoptique positif dont Carmen rêvait pour ses élèves. Elle pouvait ainsi tous te les voir en même temps et était donc toujours prête à leur apporter de l'aide si nécessaire. Ou inversement, selon les situations. Et elle pouvait la voir quand elle avait besoin de leur montrer ou expliquer quelque chose. Il y avait bien sûr des recoins, des zones cachées où l'on pouvait rater des expériences avec joie. Tenter des choses, sans jamais craindre le regard des autres.
Qu'est-ce que j'ai aimé ma cachette. J'ai l'impression d'avoir passé des années dans ce coin.
Moi, je suis sûr que Carmen te voyait.
Sûrement, mais j'aime bien l'idée d'avoir eu mon coin à moi, à l'abri de tout, pour faire ce que je voulais.
En tout cas, moi, j'adorais montrer mes expériences.
C'était quand même souvent raté.
Enfin bon, elle m'encourageait toujours avec un grand sourire.
C'était un petit paradis pour les élèves et leur éducation. Carmen y a beaucoup appris aussi. Ce fut une aventure passionnante. Même s'il a fallu tout refaire, riche de notre expérience quelques années plus tard, quand l'école est devenue trop petite pour le nombre croissant d'élèves à accueillir. Mais ce prototype nous a servi à fonder ce qu'est l'éducation sur l'île inventée aujourd'hui. Vous pouvez encore observer ce qu'est devenue cette première école et comment elle s'est développée. Il paraît que les jeunes y vont encore faire quelques bêtises à l'abri du regard des adultes, qui, comme moi, ne fréquentent plus tellement cette zone, laissée à l'abandon, ou plutôt rendue à la nature. Ça aurait amusé Carmen, j'en suis sûr. Elle qui n'a pas eu le temps de vieillir. Malgré cette expérience formidable, je n'étais qu'un adolescent insouciant, ou un jeune adulte propépubérème. Je ne connaissais de l'amour que la douceur des Stachys giganteum qui nous câlinaient le soir. Ou des Philicophyta pudicae, dont je suis à peu près sûr que vous les connaissez aussi. C'est quand nous avons débuté la construction de cette deuxième école, devant laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, que j'ai demandé la main de Carmen. Et je savais que, si elle l'acceptait, il faudrait se résigner à ne pas faire d'enfant. Elle avait toujours dit qu'elle ne voulait pas. Et pour pouvoir continuer à s'occuper de chérir ceux de l'île, sans faire de différence entre eux et sans préférence. Je ne sais pas si c'était la vraie raison, mais je l'ai acceptée. Et nous avons construit cette vie commune, avec de la joie et des convictions, entièrement vouées aux enfants, et à cette école qui portera désormais le nom de Carmen Black, sa fondatrice et la femme de ma vie. J'ai toujours pensé, et je pense encore...
Tu te souviens, quand elle nous a fait travailler sur les émotions, on devait faire un avis des émotions. C'est ça.
Mais elle avait dit
oui, on se prenait pour un signe de la chance.
On empêche des ans. Ça a permis de bien étoffer l'ergie officielle.
C'est grand. Qu'est-ce qu'on a ri quand Madeleine s'est retrouvée la tête coincée dans le céphalotus gigantis.
Tu es important. C'est grâce à ce regard qu'elle a su devenir une institutrice tant aimée de tous et de moi. Elle savait faire briller les autres sans qu'on ne la remarque. Et puis, bien sûr, il y a cet ouvrage scientifique collectif, une référence désormais ici pour quiconque souhaite développer la recherche dans un domaine. Le Nesquimusquid, qui fait l'état des lieux de nos ignorances. Une véritable bible pédagogique qu'elle a initiée et qui résume à elle seule sa manière de voir l'enseignement. Cet ouvrage, qui vit encore aujourd'hui, dans lequel chacun peut porter à la connaissance de tous de nouvelles choses ignorées. En espérant qu'un jour, quelqu'un ou quelqu'une se penche sur une de ces questions, comble le vide et condamne ces pages d'ignorance à disparaître. C'est comme ça que Carmen Black a toujours envisagé l'éducation, comme une science en mouvement, en perpétuelle croissance, comme les plantes. Et c'est ainsi que sa mémoire vivra pour nous, habitants de l'île inventée, pour des siècles et des siècles encore.
Mais j'en suis encore retourné, mais à chacune des écoutes, je suis retourné. Non mais vous vous rendez compte, mais quelle beauté, mais quelle archive. Enfin, si vous voulez, quand on est archéologue, c'est ce qu'on cherche, mais toute notre vie, pour un archéologue. Là, qu'est-ce qu'on a? On a des perles d'informations, mais c'est extraordinaire,
oui,
vous vous rendez pas bien compte,
oui,
en fait.
Oui, merci, merci Monsieur Grenier, merci, merci de votre passion pour ce beau texte de Christiane Vanney, notre invitée, je le rappelle. Donc, avant de terminer ce premier épisode de Rencontre d'auteur avec Christiane Vanney, est-ce que vous pouvez me dire rapidement et là, si Marcellus, donc si ce Marcellus est l'une des têtes dirigeantes de l'île avec Charlotte Sémaphore et Alcide Lachance?
Nous croyons que l'île ne fonctionnait pas sur une hiérarchie sociale conventionnelle, du moins pendant une bonne partie de son existence.
Intéressant, intéressant. Mais
il semble plutôt y avoir eu des groupes aux idéaux opposés.
Bon, ok. Ben, merci à vous, chers invités.
Ou une certaine mise en valeur des insulaires plus anciens, mais pas de délégation de pouvoir.
Mais nous devons toutefois nous quitter.
Non, bien sûr, Charlotte et Alcide ont bénéficié d'une reconnaissance symbolique qui ont sûrement fait de leur voix l'une des plus écoutées de l'île. Mais
merci beaucoup,
d'un
Madame
autre
Ruse,
côté,
merci, Madame Ruse.
Alcide se mêlait peu aux affaires insulaires.
Donc, je remercie aussi notre invité,
préférant la compagnie des plantes
Vanney,
et des autres botanistes recrutés par Charlotte ou qui l'a formé. Son leadership.
Bon, Martin, on va arrêter ça là.
Donc, son acuité extraordinaire du fonctionnement du végétal et de sa compréhension hors du commun des potentialités de fusion biologique avec le corps, voire avec l'esprit.
Une production de Rhizome et de Arcam sur Loire en collaboration avec La Quadrature.
Écoutez Cosmogonie de l'île inventée, épisode 1, l'institutrice. Une production de Rhizome et d'Arcam-sur-Loire en collaboration avec La Quadrature. Cette émission est à retrouver en podcast sur jetfm.fr. Bonne soirée sur jetfm.